Arlène qui dit « Mon conjoint a construit LG1 et LG2. » Elle précise en parenthèse « Pas tout seul, avec trois bonhommes qui se roulent la terre en riant. »
C'est super, une collection historique, mais cela sera exposé quand? Présentement, cela semble s'empiler à Jeanne d'Arc. Est-ce qu'il y a un projet de musée?
Bonjour et bienvenue à cet autre épisode de la série « Votre tweet est important pour nous », série balado où, à propos d'Hydro-Québec, on répond aux questions que vous nous posez souvent sur les médias sociaux. Et autour de la table, il y a les gens qui vous répondent par ordre inversé d'arrivée à Hydro-Québec, Mme Gabrielle Leblanc.
Et d'âge aussi, je dirais.
Bonjour. Et Pierre-Alexandre Buisson.
Chers amis, bonjour.
Et Jonathan Côté.
Bonjour, Francis.
Aujourd'hui, on parle histoire et patrimoine. C'est un sujet qui revient continuellement dans nos échanges avec les internautes. Et M. Buisson, justement, en lien avec ça, vous nous parlez d'archéologie.
Pour savoir où on s'en va, il faut savoir d'où on vient.
Oh, sage parole ce matin.
On a un M. Éric qui semble être un pénis-pliqueur.
Pénis-pliqueur?
Ouais.
Est-ce qu'on peut expliquer le concept, s'il vous plaît?
Est-ce qu'on peut pénis-pliquer le concept, s'il vous plaît?
Je vais pénis-pliquer le concept à toute la table. C'est quand on mansplain. Donc, okay. C'est quand un homme, du haut de sa supériorité masculine, explique des concepts à des gens en assumant que les gens à qui il l'explique ne connaissent pas ces concepts-là. Et il y a aussi phallus-pliquer qui est accepté.
D'accord.
Que je préfère personnellement.
Donc, pouvez-vous phallus-pliquer l'archéologie, s'il vous plaît?
Bien, je vais laisser notre phallus-pliqueur parler en ses propres mots. Donc, Éric disait, sous une publication où on parlait d'archéologie, « 350 ans, c'est pas de l'archéologie, même pas assez vieux pour le dater au carbone 14. Juste une tentative de confirmer le peu d'histoire qu'on a pour valider l'idée locale de peuple. Zéro CQ, petit égo à conforter. » Donc là, il insulte tout le Québec au complet en insinuant que nous n'avons pas d'histoire. Je lui ai répondu, « Merci d'expliquer à nos archéologues ce qu'est l'archéologie. On les renvoie à la maison de ce peuple. »
D'autres commentaires à apporter en ce tour de table?
Oui, bien là, on n'est pas dans le même sujet, pas du tout dans le sujet de l'archéologie. On parlait de transport en commun parce que, bon, on parle d'électrification des transports, mais là, on parlait plus spécifiquement d'autobus électriques. Et il y avait tout un débat qui s'est lancé sur nos médias sociaux par rapport au transport en commun. Et Sébastien est venu nous dire que la réalité du transport en commun, c'est que le plus gros salaire dans un autobus est 99,9% derrière le volant. Pas besoin d'en dire plus. Là, je pensais à ça, je me suis dit, dans le fond, là, c'est vrai qu'il a raison. Donc, je lui ai répondu que toutes les personnes dans un autobus sont derrière le volant. Il n'y a absolument pas de place devant le volant pour mettre des gens. Donc, c'est sûr que la personne avec le plus gros salaire est forcément derrière le volant.
Ça semble logique.
Ouais. Par définition.
Exact.
Par définition. Madame Leblanc, un commentaire à soumettre?
Oui, en fait, comme vous le savez, on est dans un immeuble patrimonial ici au siège social. Vous le saviez sûrement pas, je vous l'apprends ici en primeur. On est dans un immeuble patrimonial.
Tu nous l'overspliques.
Je vous l'overspliques. Alors, parfois, on doit faire des travaux hein, quand même pour entretenir tout ça parce que c'est vieux ici. Et donc, on a un abonné qui nous a écrit sous une publication où on expliquait justement qu'on faisait des petits travaux à l'intérieur, Jimmy, qui nous dit « ça fait une autre bonne raison d'augmenter tout le monde ». Et bonifiez vos bonus et primes de départ. Parenthèse, on ne reçoit pas de bonus ici. C'est de la rémunération incitative qui est liée à des objectifs. Hein? Donc, ça, je ne l'ai pas expliqué. Je me suis concentrée sur le siège social. Je lui ai dit, Jimmy, le siège social a été bâti il y a 60 ans. Quel lien faites-vous donc avec les tarifs en 2022? Merci de nous expliquer le tout en détail. Nous avons bien hâte de vous lire. Malheureusement, on n'a jamais eu de suivi à cette histoire-là. Donc,
Come on, Jimmy.
Jimmy, si tu nous écoutes, n'oublie pas d'aller répondre à ton propre commentaire.
La légende de Jimmy.
Mais ceci dit, aujourd'hui, on est dans un immeuble qui est plus sécuritaire parce qu'il y a eu une réfection. Mais il y a encore des travaux, je pense, sur le siège social qui vont avoir lieu. Ouais.
C'est ça qui arrive. C'est un bel immeuble, un vieil immeuble. Alors, il y a des petits...
Ce qu'on appelle un travail en progression.
Tout à fait. Et justement, bien, l'édifice est en travaux bientôt. On parle patrimoine, on parle histoire et on a deux spécialistes avec nous qui viennent aborder le sujet, Mme Alexandra Lemarcy et Mme Elisa Motard.
Bonjour.
Bonjour.
Hello.
Hello.
D'abord, Elisa, votre travail consiste en quoi exactement?
Oui, moi, je suis conseillère en muséologie dans l'équipe accueil. Donc, en français, ce que ça veut dire, c'est que je m'occupe de toute la réalisation des maquettes, panneaux d'interprétation, les outils qui vont permettre au public de comprendre diverses notions liées à l'histoire, mais également aux sciences et à l'électricité.
C'est quand même beaucoup de gens qui visitent Hydro-Québec.
Oui, absolument. Ben oui, on a 16 sites qui sont ouverts au public à l'échelle de la province. Donc, on en a plusieurs dans la région de Montréal. On a bien sûr nos centrales au nord du Québec. Et chaque année, on reçoit environ 80 000 visiteurs dans nos installations.
Quand même.
Lisa, on se le fait demander quand même souvent. Il y a des gens qui réclament un musée Hydro-Québec carrément.
Ben, ça nous ferait grand plaisir, effectivement. Le musée Hydro-Québec, pourquoi pas? Je vous dirais qu'en ce moment, on est plutôt répartis. Notre musée est comme morcelé en divers sites. On a de petits centres d'interprétation, petits musées, justement à travers nos centrales qui sont ouvertes au public. On a aussi, par contre, on a un centre d'interprétation dédié qui n'est pas relié à une centrale. Puis c'est l'Électrium qui est situé sur la rive sud de Montréal. Très aimé des groupes scolaires, d'ailleurs, pour expliquer l'électricité.
Alexandra, votre travail à vous, ça consiste en quoi?
En fait, moi, je suis à l'équipe développement durable. Je m'occupe du patrimoine à l'échelle au niveau corpo. Donc, je suis conseillère recherche scientifique en patrimoine.
Donc, c'est Hydro-Québec qui s'est doté de... s'est dit, OK, nous, là, on veut protéger notre patrimoine, donc c'est ta job.
C'est ça, ouais. Exactement.
Et puis, si même je peux me permettre, sachez que l'ouverture de nos installations au public, c'est également une directive chez Hydro-Québec. C'est la directive 30. Donc, c'est vraiment un des engagements formels d'Hydro-Québec de rendre accessibles nos sites au public.
Il y a combien des directives de même?
Ah, ça, écoute, en tant qu'employé, je suis déçue que tu ne le saches pas.
Ben là, écoute, moi, on fera une saison juste là-dessus.
On est
à toutes les directives.
Oui, c'est ça, on pourrait, c'est ça, tout à fait. Ouais.
Le patrimoine, en fait, on pense tout de suite aux objets, aux immeubles et tout ça, mais il y a plus que ça, il y a le patrimoine intangible aussi.
Oui, en fait, à Hydro-Québec, on a plusieurs types de patrimoine qu'on reconnaît. Le patrimoine bâti, le patrimoine technologique et le patrimoine intangible. Le patrimoine intangible, c'est tout ce qui est les savoirs, les savoir-faire. Puis, on est en train de mettre à jour la directive 23. On aimerait intégrer les événements et les personnages aussi. Parce que l'ensemble de ces composantes intangibles-là témoignent de l'histoire de l'électricité au Québec, de notre entreprise, mais aussi de ce qui s'est passé avant la nationalisation. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important à faire reconnaître, à partager. Mais on parlait tout à l'heure du sentiment d'appartenance, mais c'est en lien direct avec le sentiment d'appartenance des gens envers la société d'État, mais envers leur patrimoine, qui est un patrimoine, en fait, qui appartient à l'ensemble des Québécois, pas seulement à Hydro-Québec.
Hydro-Québec est issu de deux nationalisations, donc des entreprises privées sont devenues propriété du gouvernement du Québec. Mais Pierre-Alexandre, il y a des gens qui se posent des questions à la suite de ces nationalisations-là.
Oui, absolument. Bien, les gens ont toujours un sentiment d'appartenance et de fierté. Bien, les gens d'une certaine génération, en tout cas, envers Hydro-Québec. Puis ils nous disent fréquemment, c'est moi ton boss parce qu'Hydro-Québec, c'est à nous. Puis là, on a un David qui nous a dit, que sont devenues les entreprises après la nationalisation? Elles ont été intégrées, fermées. Les patrons devaient pas être contents. Donc, si on revient en arrière, c'était quoi la situation de l'électricité avant la nationalisation et pourquoi le gouvernement a-t-il pris la décision de nationaliser?
Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la nationalisation, justement, c'était plusieurs entreprises privées qui avaient des monopoles sur le territoire. Les tarifs n'étaient pas les mêmes partout. Les tarifs étaient très élevés. Puis il n'y avait pas non plus le même degré de qualité de service qui était rendu. En fait, il y a eu deux nationalisations. La première nationalisation en 1944 qui a nationalisé la Montreal Light Heat and Power Company, qui est en fait située à Montréal, puis ses filiales un petit peu en périphérie de Montréal. La première nationalisation, la compagnie privée, elle l'a pas pris au sérieux. Elle a vraiment fait une campagne de salissage pour dire « c'est pas une bonne idée de nationaliser, vous avez pas les compétences ». Bref, il y a eu toute une campagne derrière ça.
Donc, les patrons n'ont pas aimé ça.
Les patrons n'ont pas aimé ça, non, ça c'est sûr. Mais bref, ça s'est fait, puis ça a été une bonne chose. Puis par la suite, il y a eu la deuxième nationalisation en 1963. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que là encore, il y avait des monopoles, vraiment des forts monopoles. Puis les grosses compagnies achetaient les petites compagnies. Fait que ça faisait vraiment... les gens n'avaient pas le choix. Là. C'était pas comme le téléphone que tu peux un peu magasiner là où tu veux t'en aller, là, t'avais pas le choix. C'était cette compagnie-là, c'était ce tarif-là. Puis si tu voulais l'électricité, bien, c'est ça.
Mais ça, c'est un peu comme ça aujourd'hui.
Bien, les gens nous accusent des fois d'être un monopole. Vous êtes un monopole, mais là, il y a une différence parce que là nous, on est un monopole dans une situation où on est réglementé. Donc, tu sais, il y a une tarification qui doit être quand même raisonnable. Oui. Mais là, c'est un monopole, mais privé. Oui. Donc, ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient.
Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, puis l'argent revenait pas aux Québécois. L'argent, il s'en allait dans leur poche, tu sais, c'était pas redonné, c'était vraiment du capital privé. Fait que,
non seulement ça, j'ajouterais aussi que pour eux, par exemple, il y avait des régions où c'était pas payant d'aller fournir l'électricité. Donc, quand tu allais dans les régions, là, ça a été très long avant que certaines régions du Québec puissent obtenir l'accès à un service électrique efficace parce que là, ça coûtait cher en ligne de transport, on était loin des centres de production. Donc, c'est ça aussi que ça a amené les nationalisations.
Un peu
ça
comme l'Internet haute vitesse de nos jours.
Bien, exactement. Donc, l'objectif, c'était également que tous les Québécois aient un service de qualité égale au même prix. C'est pas parce que tu es loin que toi, on va te charger plus cher que celui qui est à côté de la centrale.
Mais c'est assez méconnu, ça, le fait que même si on paye toute la même chose pour l'électricité au Québec, la personne qui habite dans une région éloignée, dans les faits, ça coûte beaucoup plus cher à Hydro-Québec de lui apporter l'électricité chez elle. Mais on garde quand même, c'est comme un pacte social, c'est-à-dire on veut avoir une tarification qui va être la même, peu importe que tu sois au centre-ville de Montréal ou à l'autre bout d'un rang.
Exactement. Puis, au-delà de ça, je voulais pas te couper, Alexandra,
non, t'avais dit ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les compagnies privées avaient tout avantage à alimenter les entreprises, mais un peu moins aussi monsieur et madame tout le monde. Fait que là, avec Hydro-Québec, là, on venait s'assurer d'alimenter tout le monde.
Puis je rajouterais, si on revient au commentaire, comment est-ce qu'il s'appelait, David, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé aux entreprises puis aux personnes qui étaient dans les compagnies privées? Bien, cela dit, ils ont été annexés là, à Hydro-Québec, dans le sens où les employés n'ont pas perdu leur job. Là. Ils ont pu venir travailler pour Hydro. Puis c'est intéressant parce qu'on le voit quand on consulte les articles des journaux de l'époque, des journaux internes là, de l'entreprise. On voit, bienvenue à nos nouveaux collègues qui sont maintenant chez Hydro-Québec. Puis on les a accueillis et... De ça aussi fait en sorte que la langue française est devenue la langue de travail officielle dans nos sites de production d'électricité. Puis il y a même eu des cours de francisation, entre autres pour les employés de la Shawinigan Water and Power. Il fallait qu'ils prennent des cours de français pour travailler chez Hydro-Québec. Puis ça, bien, ça a ouvert la voie également aux Canadiens français pour pouvoir prendre leur place dans des postes un peu plus importants. Puis la construction de la centrale de Carillon en est un bon exemple, d'ailleurs, ce qui était géré, un premier chantier géré par des francophones.
Donc, à partir de ce moment-là, les anciens de la Shawinigan Light, Heat and Power devaient en parler comme étant la Shawinigan Lumière, Chaleur et Pouvoir.
Et Pouvoir.
C'est la Shawinigan Water and Power.
Ah, OK. Oh. c'est Montréal Light and Power.
Exact, Montréal, exact.
Dans les commentaires qu'on a reçus sur les médias sociaux, il y en a qui se demandent aussi, dans la même continuité, pourquoi on a d'autres entreprises qui restent, mais qui n'ont pas été dissoutes?
Il y a Raphaël qui dit « Je comprends toujours pas pourquoi certaines entités ont échappé à la nationalisation de 1963, comme Hydro-Sherbrooke, Quaticook, Baie-Comeau. Physiquement, souterrain, il n'y a pas de logique du réseau, obligé de contourner des secteurs et même des régions entières. Si tout était interconnecté et serait à Hydro-Québec, je crois, c'est mon opinion, que le service serait grandement rehaussé.
Okay. » Mon opinion? J'ai fait mes recherches.
Si tout était interconnecté, ce serait pas merveilleux.
Bien, je pense que c'est déjà interconnecté, là, on peut dire ça, Raphaël, mais quand même, pourquoi il y a des compagnies encore comme Hydro-Sherbrooke, Hydro-Quaticook?
En fait, quand il y a eu la nationalisation de 63, le gouvernement a autorisé Hydro-Québec à devenir actionnaire des 11 compagnies privées. Puis, il n'y avait aucune obligation à acquérir les réseaux municipaux puis les coopératives. À l'époque, il y en avait 80. Environ 80. Aujourd'hui, il nous reste 9 compagnies municipales puis une coopérative. Il faut savoir, en fait, que vu que c'était municipal, ça revenait à la société. C'était pas comme les compagnies privées que le capital sortait du Québec, qui revenait pas à la société. Donc, ça, c'est le premier point. Puis, il y a aussi des compagnies qui produisaient de l'électricité pour leurs propres besoins, celles-là non plus, comme Alcan, faisaient pas partie de l'obligation d'acquérir les...
On n'a pas nationalisé la production électrique de Alcan pour leur revendre.
Exact, c'est ça.
Mme Leblanc, vous aviez un commentaire aussi à soumettre, si je me trompe.
C'est la question que je vais vous soumettre, elle revient quand même régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est André qui nous demande, sachez une chose très, très importante. Nous tous, tous les Québécois, depuis la création d'Hydro-Québec, avons payé pour les barrages avec nos impôts. Donc, c'est pour cela que nous devrions toujours payer notre électricité la moins chère. Donc, avant de vous laisser répondre, je voudrais juste dire à André qu'il paye, en fait, l'électricité la moins chère en Amérique du Nord. Donc, cette partie-là est réglée.
La première bonne nouvelle.
On
a-tu d'autres bonnes nouvelles pour André?
Par rapport à ses impôts.
On en a des bonnes nouvelles. Ben, tu sais, à défense d'André, là, j'avoue que ça peut parfois être confondant, comme on dit, là, l'histoire de qui a payé pour nos centrales, pour les nationalisations. Pour faire ça simple, là, comme tout bon achat d'importance, il a fallu emprunter. Il a fallu aller auprès des banques, sur les marchés, entre autres américains, notamment lors de la première nationalisation, puisque la majorité des banquiers canadiens et britanniques étaient actionnaires des compagnies qui étaient pour être nationalisées, donc ça ne leur tentait pas trop de prêter. Donc, on est allé sur des marchés de New York, on a emprunté des gros montants, et c'est une pratique qui est courante, là, qui est normale, et c'est des prêts que nous devons donc rembourser. Alors, ce qui arrive, c'est que pour faire ça simple, notre fiscalité d'impôt, là, c'est deux choses différentes. Là. Avec les profits générés par Hydro-Québec, qui est une société d'État dont l'actionnaire principal est le gouvernement du Québec. Donc, quand vous payez votre électricité, André, il y a 75 % des profits qui sont versés au gouvernement du Québec et qui viennent se joindre à vos impôts pour vous permettre de payer les services qu'offre le gouvernement. Et le 25 % qui reste, bien, on s'en sert notamment pour rembourser ces prêts-là qu'on a octroyés pour... qu'on est allé chercher, en fait, plutôt qu'on a octroyé, qu'on est allé prendre pour payer nos barrages, pour pouvoir rembourser les nationalisations également, mais aussi pour entretenir nos actifs et pour les faire rouler. Ça prend un budget de roulement pour faire fonctionner tout ça. Là, on a des employés, voilà.
Donc, la bonne nouvelle, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas une scène de ces impôts qui est venue payer pour nos activités. Mais en plus, troisième bonne nouvelle, c'est même le contraire. Exact. Mais donc, il n'y a pas de différence entre le fait que quelqu'un paye sa facture d'électricité puis ça vient payer pour une partie des infrastructures puis le fait que je vais acheter un café au coin de la rue puis ça paye pour la bâtisse, les employés, tout ça. On fonctionne comme une autre entreprise.
Là, exactement.
Il fut un moment, et Pierre-Alexandre, il y a un commentaire qui abonde dans ce sens-là. Un moment où on a considéré d'autres sources d'énergie.
Oui, avec Gentilly, on a eu une centrale nucléaire, énergie assez controversée. Les gens ne l'ont pas oublié. Puis on a un 20-100 qui écrit son nom comme 20 le chiffre et 100 le chiffre. Par contre, il ne faut pas oublier que M. Lévesque voulait construire une vingtaine de réacteurs nucléaires le long du fleuve. Une chance que cela n'est pas arrivé.
Vincent, est-ce qu'il habite au 10-30?
Ça fait concept.
Pardonnez-moi. Que de questions.
Alors, l'Olivier de l'année est remis à Élisa Monard.
C'est pour ça que tu m'as invité.
C'est ça. Faire des blagues.
Bon, le nucléaire, à chaque époque, son contexte. Là, on va y aller comme ça. Faut pas. C'est facile, tu sais, aussi de juger ce qui pouvait se dire, ou les décisions d'une époque avec le recul qu'on a aujourd'hui. Le nucléaire, là, à la fin des années 60, des années 70, c'était l'énergie du futur. Là. C'était réellement une découverte révolutionnaire pour permettre de solutionner les problèmes d'approvisionnement, la demande qui était croissante, et ça, à travers le monde. Et d'ailleurs, tout le monde, tout parti confondu, bien là, il parle de René Lévesque. Bien, oui, effectivement, le PQ, à la fin des années 60, début 70... début plus 70, parce que ça remonte vraiment à l'annonce des travaux de l'abbé James, là, si on veut, par Robert Bourassa, faisait son travail de parti de l'opposition parce qu'il remettait en question le fait que les investissements, les importants, massifs qu'allait générer le projet du siècle, c'est-à-dire développer l'abbé James, est-ce que ça allait avoir un impact sur la poursuite du développement du nucléaire au Québec, donc qui était perçu comme l'énergie de l'avenir? Et on ne voulait pas accumuler de retard par rapport à la technologie qui était en train de se développer actuellement. Dans les années 60, on est dans le contexte d'une révolution tranquille, d'un esprit très nationaliste. On veut reprendre en main notre destin au Québec. Il n'était pas question qu'on accumule du retard par rapport à nos voisins des provinces canadiennes puis d'à travers le monde. Et donc, c'est un peu ce qui était remis en question à l'époque par le Parti québécois. Mais lorsqu'on a ouvert Gentilly 1 en 70... Des libéraux, Le Sage, Bourassa, tout le monde était très, très fier qu'on ait du nucléaire à l'époque. Puis, au fil des années, finalement, le choix a été fait d'aller vers l'hydroélectricité parce que c'est une ressource qu'on avait déjà. C'était une expertise qu'on avait déjà. On avait construit Manic, on avait construit Bersimis. C'était, oui, un projet qui était ambitieux, mais c'était un projet qui était à notre portée comme Québécois. Puis, c'est pour ça aussi que c'était le choix logique. Mais c'est un débat qui est sain, à l'époque, de questionner nucléaire, pourquoi pas.
Donc, c'était dans les idées là, qui circulaient à l'époque de dire on va faire plusieurs centrales nucléaires pour finalement alimenter le Québec, tous les besoins croissants.
Ça aurait pu, c'est ça, parce qu'on se disait que ça allait être le kilowattheure le moins cher dans le futur, que ça allait, c'était une énergie qui était perçue comme très propre, c'était très efficace. Et d'ailleurs, ça s'est avéré une solution... La meilleure des solutions dans plusieurs pays du monde, en Europe, c'est très utilisé, le nucléaire. On le voit dans certains pays, en Asie également. Donc, nous, on avait cette chance-là d'avoir la ressource hydroélectrique. Bien, on est allé vers ça, puis on en est très heureux aujourd'hui.
Un peu méconnu quand même de notre histoire.
Ouais, puis Gentilly, maintenant, Gentilly 2 fait partie un peu de notre patrimoine même, fermé en 2012, hein, Alexandra?
Oui, ça fait 10 ans, en fait, ce mois-ci, que Pauline Marois a annoncé la fermeture. Mais tu sais, ce qu'il faut savoir... c'est qu'il y a tout un patrimoine intangible aussi qui est lié à la fermeture de cette centrale-là, les connaissances, le sentiment d'appartenance que les employés avaient dans leur lieu. Dans nos actions de préservation du patrimoine, on fait des interviews, justement. On a fait des interviews avec les gens qui ont travaillé à cette centrale-là pour témoigner de leur quotidien, de leurs activités, comment ça fonctionnait, une centrale nucléaire et tout.
Donc on a ça quelque part dans nos archives, des témoignages,
oui,
des gens
exactement.
Qui étaient là.
Oui.
Donc pour garder mémoire vraiment de cet épisode-là,
oui,
de notre histoire.
Le patrimoine, en fait, sert aussi à nous rappeler ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de moins bien, à tirer des conclusions, des apprentissages aussi de notre histoire. Donc,
On a aussi la mise en chantier de la baie James qui fête son 50e anniversaire au printemps 2023. Ça a été un grand projet, une grande décision. Ça fait jaser ça aussi, M. Côté.
Oui, on a fait une publication sur Facebook où on parlait d'un parc comme commémoratif qui rendait hommage à tous les gens qui ont travaillé pour la construction de ce chantier-là. Et on avait posé la question...
Le parc est situé où, Jonathan?
Je pense qu'il est à la baie James, il me semble. Je pense que
c'est effectivement, c'est le parc commémoratif des
Bâtisseurs. Vraiment un bon choix d'emplacement. Si j'avais eu à le positionner,
j'aurais sûrement mieux. Un parc, c'est à la baie James, on demande à baie James.
Exact. Mais en tout cas, on avait posé candidement la question aux gens. Connaissez-vous quelqu'un qui a travaillé sur le chantier de la baie James? Puis on s'est rendu compte assez rapidement qu'à peu près tout le monde a travaillé sur le chantier de la baie James. Ou connaît quelqu'un, du moins.
T'étais pas là, toi?
En tout cas, j'étais peut-être bien petit. Mais en tout cas, il y a Arlène qui dit « Mon conjoint a construit LG1 et LG2. » Elle précise en parenthèse, pas tout seul, avec trois bonhommes qui se roulent à terre en riant. Il travaillait dans le béton. Tellement impressionnant d'aller sous terre, c'était comme une petite ville. Et Denis dit, moi, LG2A, LA01, brisé, LG4, GB1, 2, 3, Bienville, Fontange, Eastmain 1, Eastmain 1A, Rupert, La Sarcelle, Radisson, Nimisco, LG1. Fait que Denis... Sérieux?
C'est Denis qui aurait dû être
Denis,
c'est pas moi.
Tout construit lui-même.
On peut voir ça comme de l'instabilité aussi ou une envie de bouger constamment.
Il était millénial avant le temps.
Mais Arlène, c'est clairement pas ton conjoint qui a tout construit, c'est Denis.
C'est Denis qui a tout construit. Mais ça m'a fait réaliser que tout le monde, pratiquement, connaît quelqu'un qui a travaillé sur ce chantier-là. Puis peux-tu nous donner une idée comme à quel point c'était gros?
Ben, oui, effectivement. Puis ce qu'on voit comme commentaire, là, ce que tu viens de nous sortir là, c'est effectivement quelque chose qu'on voit fréquemment. On a parlé des centres d'interprétation ouverts là, au public. L'aménagement Robert Bourassa en fait partie à la baie James. Et on reçoit tellement de retraités, de membres de famille, de retraités qui viennent nous voir pour voir ce fameux chantier, ce fameux projet du siècle, on l'a évoqué tantôt. En termes d'échelle, là, c'était un des souhaits de Bourassa, d'ailleurs, quand il avait annoncé ce chantier-là, c'était pour créer de l'emploi. Bien, il ne s'est pas trompé parce que juste les deux premières phases de construction de la baie James, entre 73 et 1996, on parle d'environ 185 000 personnes là, qui auraient travaillé sur ce chantier-là à l'époque. C'était immense. Là. Je veux dire, l'échelle d'un chantier comme celui-là, les campements de travailleurs. D'ailleurs, on parlait du Parc des Bâtisseurs. Il est sur le campement campement, l'ancien campement de SG2. C'était un site immense.
C'est une ville, là, pratiquement.
Ben, c'est exactement ça. T'sais, les campements, c'était des villages. Tu avais l'école, tu avais l'église, le bureau de poste, le pub le soir, tu avais les centres de loisirs. Tout le monde, là, c'était une vraie vie de communauté. Puis d'ailleurs, reste toujours la municipalité de Radisson. Là-bas, qui est comme un héritage municipal de la région qui a été construit dans le cadre de ces travaux-là, qui existe toujours.
Donc, c'est le pub, c'était le bar boréal?
Le boréal. C'était pas le boréal pour boire une bonne taïga.
Mais le bar boréal existe encore aujourd'hui.
Oui, ben oui, ben je l'ai visité.
Mais oui, mais moi, la dernière fois que j'y étais, il y avait un renard assis dans l'entrée. Puis moi, comme petite fille de ville, j'arrêtais pas de crier « Un renard, il y a un renard! » J'étais tellement contente.
C'est comme une
écureuil. Mais les gens du bar étaient comme « Ouais, c'est notre renard! » J'étais comme « Ah! » OK. Eux, leur souhait profond, c'était de pouvoir voir genre un écureuil et un raton laveur. J'étais comme « Oh, on est pas à la même place! »
Chacun sa fond.
Chacun sa fond. Mais c'est dur d'imaginer combien de gens ont travaillé sur ce projet-là. Puis quand j'avais fait la visite guidée à la baie James, il avait donné une statistique sur le nombre d'œufs qu'il devait utiliser à la cafétéria le matin, mais c'était des milliers, là, affaire de fou. Là.
Oui, absolument. Ah oui, puis les autobus, quand les autobus arrivaient à la cafétéria, c'était quelque chose, là, la quantité de nourriture et tout ça. Puis, c'est ça, le parc commémoratif des bâtisseurs, pour y revenir, ça, pourquoi c'est intéressant. Là, je sais que c'est quelque chose d'assez récent parce qu'on l'a inauguré l'année dernière. Et c'était une initiative des gens de la municipalité de Radisson. Et nous, en fait, on a simplement facilité l'accès là, à ce site-là, qu'on a déménagé donc à l'emplacement de l'ancien campement. Puis ce qui rend ça intéressant, c'est que c'est les noms donc de 100 000 travailleurs. C'est à un moment donné, il avait fait un appel à tous, puis les gens s'inscrivaient en ligne, puis pouvaient dire « Oui, justement, là, moi, j'ai travaillé, tel site et tout ça ». Ils ont tous colligé les noms, ils ont fait cet exercice-là. Puis là, on a 40 panneaux recto-verso en aluminium, et les gens peuvent donc aller retrouver leur nom, le nom de la matante, le nom du mononcle qui est sur le chantier.
30 panneaux dédiés à Denis, là, dans le fond.
Ben, Denis, écoute, là.
Avoir un parc pour Denis dans pas long, je pense.
Si je ne me trompe pas, c'est une initiative de Daniel Bellerose, le maire de Radisson, qui est un ancien travailleur du chantier.
Absolument, oui, c'est ça, exactement. Exactement, puis lui, en fait, initialement, ce parc-là était situé sur l'autre côté de la rive, de la rivière La Grande, où il y avait eu le tout premier campement exploratoire, le G68, là, pour voir est-ce que c'est le bon endroit où faire nos centrales ici, sur cette portion de rivière-là. Puis lui, il était allé installer ce monument-là à cet endroit-là, mais là, bon, pour toutes sortes de raisons, ça rendait ça difficile là, de s'y rendre. Donc, pour faciliter ça, intégrer ça à notre circuit de visite, bon, le traversé de rive, puis on a mis ça. Maintenant, les autobus, là, quand on a nos visiteurs, on peut s'arrêter puis aller visiter.
Il y a l'histoire de la baie James, évidemment, ça a marqué l'imaginaire québécois. Mm. Il y a d'autres événements qui ont marqué l'histoire. Et Gabriel, il y a Verglas, entre autres, qui a marqué l'imaginaire.
Absolument. On reçoit des questions de toutes sortes hein, par rapport au verglas. Les gens nous demandent souvent ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a changé depuis le verglas. Et Michael nous a demandé... La preuve que vous n'avez rien appris de la crise de 95.
95?
Oui, 95.
Il n'a pas appris grand-chose.
On n'a rien eu besoin d'apprendre de la crise de 95. Il n'y avait pas de crise en 95. C'était en 98, le verglas. Je m'en rappelle, j'avais 8 ans. Même si moins de verglas et plus de vent, vous avez oublié les choses apprises en 95. Encore une fois, Michael, 98. Votre réseau est en décrépitude. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'on retient hein, du verglas de... 98?
en fait,
est-ce que c'est le patrimoine, le verglas?
Ben, l'événement de la crise du verglas, oui, c'est un épisode qu'on a d'ailleurs mis qu'on a diffusé sur une exposition virtuelle sur le site Internet. Mais pour revenir à la question, on a appris beaucoup de choses de cet épisode-là. Il y a beaucoup d'innovations qui sont venues par la suite. Le réseau, il y a eu le bouclage des lignes à haute tension à 735 pour s'assurer que si... l'énergie d'une centrale ne pouvait pas provenir, qu'on pourrait aller s'alimenter d'une autre centrale. Donc, il y a tout un réseau de boucles pour s'assurer justement qu'on ne revise pas un épisode comme on a vécu en 98, puis pas avoir de triangle noir et bref, toutes ces choses-là. Mais il y a eu aussi des innovations sur les lignes de transport. Il y a des pylônes d'arrêt qui ont été inventés pour s'assurer qu'il n'y ait pas l'effet de chute domino. On a demandé aux chercheurs de l'IREC de développer quelque chose pour enlever le verglas sur les lignes. Donc, on a développé un déglaceur. à partir d'une technologie qui avait été inventée quelques années auparavant au Pérou, dont un des chercheurs avait travaillé dessus. Puis, il n'y a pas eu d'épisode aussi important de verglas à la suite du verglas de 98, mais ce déglaceur-là a permis de développer des robots qui font justement l'entretien des lignes à haute tension, des réparations et tout. Puis on est aujourd'hui rendu à la troisième génération de robots. Donc, on a beaucoup appris de l'épisode du verglas, puis c'est important, je pense, de le faire savoir. Puis, un fait intéressant, le déglaceur, qui était le prototype, il est maintenant rendu à la collection historique. Donc, on peut... Puis c'est vraiment un bel objet très esthétique.
Mais tôt ou tard, tout devient ton travail, parce que si on attend assez longtemps, tout entre dans le patrimoine.
Vous allez peut-être trouver ça inusité, mais une des premières bornes à recharge rapide est aujourd'hui rendue à la collection historique, même si elle n'est pas vieille, parce qu'éventuellement, dans 50 ans, on va être bien content d'avoir cette première borne de recharge rapide-là pour la montrer, pour dire que ben, c'était une innovation à l'époque. Puis,
comme ça, on s'en gardait une copie à part pour
notre classe,
comme quelqu'un qui s'achète comme deux copies de la même carte de hockey pour en avoir une comme encore belle. Dans
exactement. Ouais, mais pas dans le but de le vendre puis de faire du profit, par contre.
Non, vraiment
dans le
pour,
but
de
l'exposer, mémoire, puis partager.
Dans combien d'années notre épisode de balado en soi va faire partie du patrimoine?
Ben, moi, je te dirais que je prévois une convention de don pour la casquette à Jonathan. Un classique.
Ah oui. On a un dernier commentaire dans le cadre de cet épisode.
Oui, d'ailleurs, exactement sur ce sujet-là, ça tombe bien. Un Daniel qui nous dit « C'est super, une collection historique, mais cela sera exposé quand? Présentement, cela semble s'empiler à Jeanne d'Arc. Est-ce qu'il y a un projet de musée? »
Bien, déjà, en partant, la collection n'est pas à Jeanne d'Arc. C'est les archives qui sont à Jeanne d'Arc. On les met déjà en valeur, nos objets de la collection historique. Elisa parlait tout à l'heure des centres d'interprétation. Les objets sont mis en valeur dans les centres d'interprétation. Il y a
ici,
des objets qui sont mis en valeur dans des
derrière
vitrines.
Toi, ça, c'est des panneaux.
Puis, on en prête aussi avec des partenaires externes pour des expositions. Il y a une entretoise qui avait été mise en valeur au Musée des Beaux-Arts, si je me rappelle bien. Oui. Donc, puis éventuellement, on parlait d'un musée. C'est quelque chose qu'on aimerait pouvoir développer, un musée d'électricité, puis de partager justement toutes ces connaissances, ces objets, les photos d'archives pour amener les gens, pour rendre accessible notre patrimoine.
Donc, Daniel, tu l'as appris ici en premier, peut-être éventuellement un jour, musée...
Au niveau des réseaux sociaux, on essaie de mettre ça de l'avant. On fait de plus en plus de publications sur le patrimoine.
Attends un peu nos tweets. Drôle, là. Est-ce que vous allez archiver ça quelque part à un moment donné? Ça va-tu faire partie du patrimoine?
Ah, ça, appelle aux archives sur Jeanne d'Arc.
Mais souvent, en collaboration avec toi directement, en fait, on fait des publications où on présente des objets, on présente ces choses-là. Fait que si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous à la page Facebook d'Hydro-Québec parce qu'on en ressort. Puis on parle beaucoup d'histoire sur Instagram aussi. On fait souvent des publications historiques avec des photos d'archives. Donc, ça vaut la peine. Pour les gens qui tripent sur l'histoire, on en diffuse autant que possible.
On a la chaîne YouTube Patrimoine aussi. C'est une des chaînes qu'on a là, sur le YouTube d'Hydro-Québec, là, avec justement les entrevues patrimoine immatériel intangible avec les retraités, entre autres. C'est intéressant. Oui.
En somme, pour résumer cet épisode-là, la baie James a marqué l'imaginaire. On a appris beaucoup du verglas. On a des collections historiques et Denis a à peu près tout bâti à la baie James. Est-ce que j'ai bien compris l'épisode?
C'est exactement ça, Francis.
Bien, merci beaucoup d'être venu nous voir pour parler histoire.
Bien, merci de l'invitation.
Et quant à vous, surveillez la liste des sujets, une panoplie de sujets tout aussi intéressants.